Retour sur le plateau de la JDL TV avec trois invités exceptionnels pour parler de l'avenir du levage en France. Avec Alexandre Vernazza, président du groupe Mediaco. Philippe Coé, président du groupe Uperio et président du DLR. Éric Stropiana, directeur de l'activité levage et manutention du groupe Foslef et président de l'UFL.
Nous allons parler de l'avenir du levage en France avec trois invités avec nous. Éric Stropiana, vous êtes président de l'UFL, vous représentez la profession du levage en France. À vos côtés, Alexandre Vernazza, vous êtes président de l'entreprise Mediaco, numéro 1 du levage en France. Et puis, à ma gauche, Philippe Coé, vous êtes président de l'associé Uperio. Alors, on va parler de l'avenir du levage. Je vais commencer avec vous, Éric. Est-ce que vous pouvez nous faire un constat sur le métier du levageur ?
Donc, effectivement, le levage est en pleine mouvance. On s'aperçoit depuis quelque temps qu'il y a des façons de faire et des pratiques qui se développent et qui n'étaient pas communes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une différence nette et flagrante du besoin personnel dans le levage. On demande des gens qui ont des capacités d'utiliser des systèmes informatiques embarqués sur les nombres mobiles, par exemple, qui sont de plus en plus complexes, ce qui pose des problématiques générationnelles avec les plus anciens grutiers qui n'avaient pas l'habitude de ce genre d'utilisation. On se rend compte également qu'on va sur une tendance de machines de plus en plus grosses dans le domaine du levage. Ça pose des questions sur les concentrations et l'investissement dans ces matériels-là. Les modes de construction de nos clients changent également.
On est sur quel mode de construction là ? Ça se profile comment ?
Alors, ce qu'on constate dans beaucoup de pays à l'étranger notamment, c'est la construction hors site qui se développe énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire un immeuble en centre-ville, ça devient très compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les questions de sécurité, de normes de sécurité sur les chantiers. Donc, on est de plus en plus draconien sur ces systèmes-là. Donc, ça nécessite d'avoir des allongements de durée de chantier. On a une problématique derrière qui est la nuisance que l'on apporte aux riverains. Voilà. Et puis, il y a des problématiques sous-jacentes dans tout ça qui sont des problématiques environnementales. Donc, je parle d'environnement au sens large du terme, aussi bien sur le bruit, sur les rejets de ces pollutions, de ces constructions, les traitements des déchets, etc., etc. Donc, la construction hors site, c'est quelque chose qui va se développer dans l'avenir de plus en plus. Et on voit que certaines villes, comme Londres, par exemple, ont déjà fait le parti pris d'avoir des quartiers complets qui ont été construits et préfabriqués en usine de production, où là, on a des cadences qui peuvent être plus élevées que sur chantier, où on maîtrise mieux les risques associés à ces constructions et où finalement, on n'a plus que le transport et le levage de modules préfabriqués à réaliser sur le site définitif. Et là, effectivement, on a besoin de machines de matériel de plus en plus importantes en termes de tonnage.
Donc, des compétences différentes pour les salariés, les collaborateurs, avec cette nouvelle génération qui doit arriver, en tout cas qui doit être formée à la digitalisation notamment.
Exactement.
Cette sortie du milieu urbain pour aller sur d'autres zones géographiques avec une construction différente.
Une construction différente, et on le voit aujourd'hui dans l'éolien offshore. L'éolien onshore qui se traitait aujourd'hui à terre, qui posait des problématiques d'accessibilité, etc. Aujourd'hui, on le délocalise sur nos mers et nos océans. Parce que justement, on a des places beaucoup plus disponibles, mais on arrive à mettre des capacités beaucoup plus importantes. Voilà, avec des problématiques de vent qui sont associées à tout ça, bien entendu. Mais donc voilà, donc il y a une délocalisation, une transformation des métiers qui est en train de se mettre en place chez nos clients. Donc forcément, le levage est un peu de mouvance.
Donc d'autres machines, vous l'avez évoqué au démarrage, c'est des machines de plus en plus importantes.
Oui.
Ça ne s'adresse pas à tous les levageurs.
Alors là, on va avoir une barrière capitalistique sur l'investissement matériel, effectivement. La donnée d'entrée aujourd'hui pour acheter une grue de forte capacité, elle est compliquée pour les petits levageurs qui veulent se lancer ou les petites et moyennes entreprises. Donc ce sont des machines qui sont coûteuses à l'exploitation, mais aussi qui nécessitent derrière un système documentaire associé à tout ça, qui est important et qui est demandé par nos clients aujourd'hui et qui est normal. On n'y échappera pas aujourd'hui, on est dans cette mouvance-là. Et donc pour associer tout ça ensemble, les petites et moyennes entreprises, à mon sens, auront de plus en plus de mal à se mettre à niveau, sans parler aujourd'hui qu'on a quand même une pyramide des âges chez nos dirigeants, de toutes les entreprises de France, alors principalement les plus petites, où on a des dirigeants qui sont de plus en plus anciens et qui arrivent en fin de carrière, qui n'ont pas forcément de repreneurs Et donc, ça va favoriser, à mon sens, la concentration dans les années à venir.
Alexandre, est-ce que, donc, président de l'entreprise Mediaco, est-ce que vous, vous ressentez ce changement du marché? Comment il se profile selon vous? Et vous, et quel est l'impact sur vos activités? Et comment elles se portent?
Alors, pour rejoindre Eric, je dirais que le métier du levage se professionnalise. Il est vrai qu'on connaît depuis à peu près 10 ans une montée de la technologie, une montée, vous parlez de l'IA tout à l'heure. Nos opérateurs aujourd'hui doivent être beaucoup plus formés qu'à l'époque. Et puis, quand je parle de professionnalisation, je parle de qualité, je parle de sécurité, je parle également de veille documentaire pour tout ce qui est nouveaux engins. Et effectivement, pour rentrer sur un chantier aujourd'hui, il ne suffit pas d'acheter une grue, il ne suffit pas d'avoir un grutier qui sort d'un camion routier. Il faut le former, il faut s'assurer de la qualité, de la sécurité, pour satisfaire le client, satisfaire la veille documentaire, et puis bien évidemment, avoir les formations nécessaires pour rentrer dans des sites plus complexes que le bâtiment, en pétrochimie, en chimie, ou alors même dans le nucléaire. On a des certifications qui sont aujourd'hui très importantes et on ne peut pas y échapper.
Donc vraiment un marché qui, enfin en tout cas des profils de collaborateurs qui évoluent, parce que le marché évolue, les demandes de vos clients aussi.
Des profils
aussi.
Qui évoluent, un métier qui se professionnalise et qui finalement, l'artisanat dans ce métier existe de moins en moins. Et il y a moins de place à l'artisanat de par ces nouvelles règles et de par ce professionnalisme qui doit s'instaurer pour la qualité et pour la sécurité et qui est indissociable de notre métier aujourd'hui.
Donc, peut-être de moins en moins de petits levageurs, on va dire artisans ou pas?
Non, je ne crois pas. Je pense que les sociétés de petite taille ou de moyenne taille peuvent tout à fait se mettre au même diapason que les grands groupes. C'est qu'une question de volonté, c'est une question de formation, c'est une question d'engagement. Ça a un coût, mais le coût est le même pour une petite entreprise, une moyenne ou une grande, puisque ça revient à dire je forme une personne pour pouvoir conduire cette nouvelle grue qui est technologiquement bien au-dessus de ce que l'on avait pu connaître il y a 10 ans. Donc la formation est plus longue, le risque de panne est plus important. Donc il faut aussi avoir des gens qui soient capables de calibrer la machine comme il faut et finalement de la réparer s'il y a un problème.
La maintenance.
Puis la maintenance. Donc je ne crois pas que ça soit un problème. La technologie n'est pas pour moi un problème d'accessibilité, mais un problème de formation et d'engagement. En ce qui concerne l'accessibilité au métier et la barrière capitalistique, pour reprendre les mots d'Eric, effectivement, aujourd'hui, la barrière est haute. Le matériel a fortement augmenté et pouvoir avoir un parc de plus de 15 grues aujourd'hui en partant de zéro, c'est compliqué, mais on l'a vu dans certaines régions. Certaines entreprises y arrivent, y sont arrivées et il y a encore de belles réussites et c'est très beau de le voir. Et moi, ça me plaît de voir des entreprises qui débutent de zéro. J'en ai vu il y a 5 ans, j'en ai vu il y a 10 ans, il y en a encore il y a 2 ans. Et je trouve ça très beau de voir des entreprises qui se créent et au contraire qui font perpétuer notre profession.
Elles ont leur place.
Elles ont leur place et c'est bien. La concurrence est là et il faut qu'elle soit là.
C'est plutôt positif.
Complètement d'accord avec toi Alexandre. Il y a des gens qui arrivent encore à progresser. Mais parce qu'on a des dirigeants aujourd'hui qui ont la volonté de faire progresser leur entreprise. C'est cette volonté de pouvoir progresser, innover, etc. et rentrer dans cette démarche d'accompagnement de nos clients et de se positionner comme il faut aujourd'hui sur un marché qui est en pleine mouvance. C'est pas forcément évident pour ces gens-là, qui sont des entrepreneurs remarquables, parce que ce marché justement est en pleine mouvance. Donc quand on a pris une direction, il faut savoir tout de suite changer de cap. Et si on perdure dans une direction, on va presque dans le mur.
Donc ils doivent être agiles, en fait.
Ils doivent être agiles, exactement. Et de toute façon, on le voit, Marion, dans nos nouveaux entrepreneurs, dans ce métier-là, et qui réussissent, ce sont des gens, je dirais, qui ont une certaine, effectivement, agilité, mais plus que ça,
je pense
une intelligence.
On peut parler de passion également, c'est un métier de passionné.
C'est un métier de passionné.
Et je crois que si on n'est pas passionné de ce matériel et de ce métier, on a beaucoup de mal à franchir cette barrière capitalistique qui est très importante et l'engagement qui est énorme.
Et se faire sa place.
Et faire sa place. Mais je crois que la passion y est pour beaucoup.
Et sur l'avenir, est-ce que la réglementation dans votre métier, ce qui vous est demandé, c'est peut-être des contraintes supplémentaires, toujours plus de sécurité, c'est ce qu'on disait
tout
à l'heure, mais est-ce que pour vous, ça change vraiment votre avenir et l'avenir de vos collaborateurs?
Non, moi je crois que ça donne une certaine ligne directrice et je crois que la rigueur, c'est ce qu'il faut dans notre métier. Et quand je parle encore une fois de professionnalisation de notre métier, il y a 15 ans, on n'avait pas cette réglementation. Alors, on l'avait, mais on ne l'appliquait pas de la même façon. Et l'UFL s'est battue pendant de très nombreuses années pour assouplir la réglementation, notamment les conditions de circulation. Et on a quitté cette volonté de vouloir faire différemment des autres pays européens, puisque tous les autres pays européens ont la même législation, la même réglementation. Il faut rouler à 12 tonnes à l'essieu. Or, nos grues, quand elles circulent...
Nous, on est décalés par rapport à ça.
Non, on est dans la norme européenne et nos grues, aujourd'hui, dépouillées de leur contrepoids et de leurs accessoires, peuvent être à 12 tonnes à l'essieu, dans les meilleurs cas. Mais avec leurs accessoires, elles roulent souvent à plus de 12 tonnes à l'essieu. Il se trouve que la règle est européenne, les Allemands roulent pareil, les sociétés belges roulent pareil, les Italiens. Et on a voulu se démarquer de ça à une époque, on a, pour moi, perdu pas mal de temps. Et on a pris cette décision il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant il y a donc 5-6 ans, de vouloir se désolidariser de cette volonté presque de dire on demande aux constructeurs de créer quelque chose d'à part pour nous, alors que l'Europe entière roule à 12 tonnes. Et depuis ce jour, je crois qu'on est rentré dans cette réglementation, pour vous répondre sur votre deuxième question, et on est dans la réglementation aujourd'hui, et on doit se conforter, et on doit être conforme à la réglementation de 12 tonnes à l'échelle, qui pour nous est la plus contraignante aujourd'hui, si ce n'est d'autres réglementations qui sont nécessaires. On a des certifications comme l'UTO, comme le MAS, comme l'ISO, le CEFRI. Ça, pour moi, ce sont des normes qui sont intéressantes et obligatoires pour travailler dans certains sites. Mais le prérequis pour le levage, pour moi, pour la sécurité et l'avenir de notre métier, il faut respecter les 12 tonnes à l'essieu. Et ça, pour moi, la profession doit tendre vers ça et nos concurrents doivent tendre vers les 12 tonnes à l'essieu pour que notre profession puisse encore, justement, comme tu le disais tout à l'heure, rentrer dans les centres-villes.
Ouais.
Paris, Strasbourg, aujourd'hui, ce sont des vrais enjeux. On parle de critères, on parle de surcharge à l'essieu, on parle de nuisance. Si on ne respecte pas les réglementations, notre métier aura du mal à intervenir en milieu urbain.
L'UFL, vos adhérents sont dans les clous.
La professionnalisation dont on parle Alexandre, elle est obligatoire. Je pense qu'on n'a plus le choix, de toute façon aujourd'hui, que d'avoir des levageurs qui respectent les réglementations. Donc l'UFL, effectivement, met en avant ce respect-là. On n'a pas d'autre équivoque. Je pense qu'il faut dédiaboliser la réglementation aujourd'hui. La réglementation, finalement, c'est quelque chose qui nous fait quoi ? Qui nous permet de progresser, de s'améliorer, parce que c'est une barrière à franchir, c'est un cap, un objectif à atteindre. Et ça, c'est quelque chose d'important que tout le monde doit comprendre. Voilà. Effectivement, on est tous embêtés par des réglementations différentes, et on le voit bien dans notre quotidien, hein, la fabrication des machines, les accréditations, les réglementations, etc. C'est quelque chose qui met toujours une difficulté particulière. Mais c'est justement face à ces difficultés que le levageur doit réagir. Et c'est là où on a besoin de professionnaliser. Je suis complètement d'accord.
Dans la professionnalisation, tout à l'heure, on a abordé les nouvelles technologies, ces formations nécessaires là, pour ces nouveaux collaborateurs de se mettre, on va dire, à la page des nouvelles technologies. Dans ces nouvelles technologies, on parle souvent d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impactant pour vous ? Est-ce que ça peut vous aider ou pas du tout ?
Je pense que dans l'intelligence artificielle, on a plusieurs niveaux. Il y a le système qui va nous aider à prendre certaines décisions, qui est pour moi une forme d'intelligence artificielle. Et puis, il y a finalement l'intelligence artificielle ultime qui prend les décisions parce qu'à notre place.
De faire à la place.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà des systèmes qui nous aident à la prise de décision. On a tout un tas de logiciels, voire progiciels aujourd'hui, de logiciels embarqués sur nos grues mobiles, etc., qui nous permettent de cette prise de décision. L'intelligence artificielle, moi, je la vois plutôt dans des activités de maintenance, de préparation de chantier, voire de gestion, de planification ou de l'opérationnel, en tout cas pour trouver des solutions d'optimisation, justement pour réduire nos coûts de revient, etc. Quand on parle maintenant d'intelligence artificielle, quant au déroulé du chantier véritable et à la conduite, aujourd'hui j'ai un peu du mal à voir l'objectif.
Comme la voiture autonome, voilà. Ça
comme
reste
la voiture autonome.
Encore.
Ben, finalement, sur la voiture autonome, c'est un bon exemple, puisque vous avez sur une voiture autonome, quelque part, déjà des codes.
Oui.
Des lignes blanches, des feux rouges, etc., etc. Aujourd'hui, notre diversité de chantiers fait que ces codes-là, ils n'existent pas. Alors peut-être qu'il faudra les créer pour qu'on puisse avoir des engins qui se pilotent quasiment tout seuls, mais aujourd'hui, on n'y est pas.
Les environnements sont différents à chaque
Exactement.
Fois. Pour vous aussi, c'est un peu le même point de vue ou...
Je voilà. pense qu'il y a finalement de l'IA de partout. Ça dépend ce qu'on appelle l'IA. On a, nous, développé chez nous, avec Microsoft, un logiciel. Une Microsoft Dynamics qui nous permet aujourd'hui de faire des choses effectivement qu'on n'aurait pas pu faire sans ce logiciel. Est-ce qu'il y a de l'IA dedans ? Moi, je pense que oui, parce que forcément, quand on planifie, qu'on arrive à sortir un devis, facturer et rapprocher les heures des gars, et ben forcément, oui, il y a de l'IA, parce que ça conditionne notre façon de travailler et ça nous dicte le travail que nous devons faire. Au-delà de ça, j'y crois beaucoup pour l'OPM, le parc matériel. Aujourd'hui, pour la maintenance de machines, pour moi, l'intelligence artificielle a beaucoup d'avenir chez nous et va fortement se développer. En termes d'opération dans la machine, je ne pense pas qu'il y a dans une grue pourra dire à un chauffeur
Je te remplace et tu feras comme ça.
Par contre, il pourrait y avoir des préconisations, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans d'autres activités. Il vaut mieux que tu orientes un peu plus à gauche ou à droite. Peut-être, on ne sait pas. On ne connaît pas cette application dans notre métier. En tout cas, aujourd'hui, on fait tous une chose, c'est que l'IA est partout. On parle d'IA dans tous les secteurs d'activité. Et je ne crois pas qu'il y ait demain, dans un avenir à 10 ans, de business sans IA. Ouais. Donc, j'espère qu'on sera de cette partie également.
Donc, plus dans la gestion. Au-delà de la technologie, vous êtes aussi confronté à un autre sujet. On en a parlé là pendant 2 jours. C'est l'environnement, la transition énergétique. Ça impacte vos métiers.
Bien sûr.
Vous êtes prêt?
On est prêt, on a envie, mais on n'a pas tous les moyens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, dans le métier du levage, on aimerait faire plus. On aimerait répondre plus aux nouvelles normes, aux nouveaux critères, plus participer à réduire notre empreinte finalement. Mais le matériel qu'on nous propose ne le permet pas. Donc aujourd'hui, dans le métier du levage, à part acheter des voitures hybrides ou tendre vers un bilan carbone, c'est-à-dire le faire et essayer de diminuer significativement notre empreinte, on n'a pas de produits, hormis les grues électriques de manutention, qui sont de petits engins que nous utilisons en parallèle de façon annexe ou connexe de nos grues mobiles. On n'a pas de solution pour nos gros engins, que ce soit des camions, des tracteurs ou des grues, de passer sur de l'hybridation ou sur d'autres modes de consommation. Et aujourd'hui, je fais un rapprochement qui est assez simple. C'est la grue, pour moi, il y a une poussée qui est très importante, comme un avion ou alors voire comme un bateau. Et on voit que le seul principe qui marche aujourd'hui sur le bateau, on le voit sur les navires à LNG, c'est le gaz liquéfié. Et le gaz liquéfié sur la route, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on espère, en tout cas chez Mediaco, que des constructeurs nous amèneront des solutions économiquement viable, bien sûr,
on a eu des constructeurs là autour de la table, on a parlé de nouvelles énergies et alors ils ont des choses encore à nous proposer, des nouvelles technologies, mais ils nous disaient par contre ça coûte plus cher parce que ça impacte aussi vous, votre client au bout de la chaîne.
Oui, bonjour, oui, tout à fait, ça impacte notre activité à nous-mêmes. C'est clair que tous les chantiers qui utilisent des grues à tour sont urbains et que les ZFE vont créer un véritable défi sur comment gérer la phase essentielle, qu'est le montage ou le démontage de la grue, et que ça coûtera plus cher, mais je pense qu'à un moment donné, ça sera discriminant de toute façon. On est devant une pression sociétale importante. Alors, ce qui est clair, c'est que les solutions techniques, à la fois au niveau des technologies de génération d'énergie pour les grues mobiles ou le carburant, que ce soit le fil électrique, le réservoir d'hydrogène ou de biométhane, il y a vraiment les deux sujets. Il y aura sans doute avant une réduction liée à l'usage, et je crois beaucoup au fait que le professionnalisme, un peu comme dans les camions, le professionnalisme fera que les chauffeurs de grues mobiles, au lieu de laisser la machine tourner pendant 2 heures pour faire 2 levages, ou 3 levages, et pour différentes raisons, soit la clim, soit je ne sais pas quoi, laisse tourner, ça ne sera plus possible. Donc il y aura des start and stop, il y aura beaucoup de contraintes qui seront faites pour que vraiment les gens aient un impact minimum dans le chantier. Le réduire à zéro, ça me semble pas à portée de main tout de suite, en tout cas le réduire, et faire un reporting du bilan carbone du levage, c'est quelque chose qui va arriver sans doute. De même pour les camions, puisque nous, les grues mobiles, on a 2 points importants dans les opérations de levage, à la fois le transport et le levage. Et c'est clair que c'est un débat, c'est un sujet qui va arriver très très vite.
L'hydrogène, à l'UFL, on en pense quoi?
On est en veille au niveau de l'UFL sur ces sujets-là, bien entendu, depuis pas mal de temps. On sait que des actions sont menées aujourd'hui dans différents pays européens pour un peu démocratiser l'hydrogène. Alors, tout le débat qu'on a encore, c'est quelle est la provenance de cet hydrogène? Comment est-ce qu'il est produit? Est-ce qu'il est produit à partir d'éoliennes qui fourniraient l'électricité sur des électrolyseurs, etc.? Ou est-ce qu'il est produit par un traitement chimique d'un produit pétrolier qui permettrait... Voilà. Donc il y a encore beaucoup de débats à ce niveau-là. Donc finalement, dans le bilan carbone de l'hydrogène qui est produit, il y a un peu à boire et à manger, j'aurais tendance à dire, Mario. Hein, il y a encore faut-il identifier la provenance pour pouvoir dire effectivement si c'est quelque chose qui est vraiment vert ou si c'est quelque chose qui est plutôt gris. L'hydrogène, en tout cas, il a le mérite d'une chose, C'est premièrement, c'est que c'est le zéro rejet à l'échappement.
Zéro, voilà.
Voilà, donc ça c'est
pas d'émission en tout cas.
Pas d'émission. Donc comme l'électrique aujourd'hui, quand on est à 100% électrique, il a surtout un deuxième avantage qui est un problème d'industrialisation un peu plus large. Finalement, on voit aujourd'hui que des solutions sur des moteurs thermiques à explosion surviennent et peuvent fonctionner à l'hydrogène combiné à une toute petite proportion de carburant fossile. J'ai tendance à dire que moi, je pense que l'avenir, il est, enfin, en tout cas, l'UFL pense que l'avenir, il est plutôt là. Il est plutôt là parce que ça nous permettrait d'avoir des puissances nécessaires au déplacement et au fonctionnement de nos engins, qui est quand même le nerf de la guerre dans ce genre de métier. Hein. La deuxième problématique, c'est que ça permettrait à terme, chez tous les constructeurs de moteurs aujourd'hui, de conserver leur schéma industriel et leur process de fabrication. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui changent sur ces moteurs-là, si ce n'est un peu la partie supérieure du moteur en termes d'alimentation, d'injection, etc. Et là, par contre, c'est une vraie alternative qui se profile. Bien sûr, la pile à combustible à base d'hydrogène, etc., c'est une solution qui marche, mais ce n'est pas la meilleure des solutions, je pense, au niveau industrialisation, au niveau mondial.
En tout cas, voilà, les gros engins de chantier, ça va être assez compliqué.
Les gros engins de chantier, ça va être assez compliqué. En tout cas, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'a pas la compétence, en tout cas, les constructeurs, j'y mets peut-être un bémol long peut-être de leur côté, mais je pense que personne n'a la compétence, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de maintenance, etc., pour s'attaquer à des piles à combustible. Donc aujourd'hui, par contre, si on parle de motorisation à explosion, traditionnelle, là, il y a un avenir.
Des solutions se profilent. Ça a un coût. Il y a un moment donné, il va falloir que tout le monde participe à ce coût-là. Philippe Coué, vous avez l'activité levage. Vous êtes un client des acteurs du levage. Aujourd'hui, quelle est votre activité? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour nous donner une idée? Et puis après, comment ça se passe, vous, dans votre profession, dans la construction? Quelles sont les tendances?
D'accord. Alors, on a beaucoup de choses au niveau professionnalisme qu'on retrouve qui viennent de nos clients. On partage aussi des clients. Les grands comptes de la construction peuvent utiliser des grues à tour et ensuite, pour terminer le chantier, des grues mobiles. Donc, la tendance, les points que soulevait Alexandre, nous sommes complètement alignés avec cela. Après, nous, c'est clair que la grue à tour a une phase unique dans le matériel, c'est cette phase de montage, qui est à la fois importante, qui pèse un poids important. Dans le groupe Perio, ça représente 8-9 millions par an d'achats de pression de levage. Au niveau mondial, c'est une 15 à 20 millions, c'est très important. Et donc nous, on a à cœur évidemment de choisir des bons partenaires pour cela, avec un leitmotiv qui est évidemment d'abord la sécurité, et un autre qui est ce que j'appelle la qualité, la productivité, la rapidité, puisque... Là encore, c'est un élément de compétitivité dans notre offre. Hein. Nous, quand on loue une grue, on donne en même temps l'opération de montage ou d'ailleurs l'opération de démontage, dont on parle moins, mais qui est souvent plus complexe, parce que démonter une grue à tour quand l'immeuble a déjà été construit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est clair que nous avons à cœur de travailler avec des partenaires professionnels responsables. On travaille d'ailleurs avec notre propre syndicat au sein de DLR à la mise en place de conditions générales, de manière à ce que les phases, en particulier où il y a vraiment un partenariat, la phase de levage est toujours une phase un peu critique. Il y a beaucoup d'accidents dans l'historique de nos métiers, hein, où cette phase-là est critique. Vous avez des pièces de grue très importantes, qui ont des prises au vent très importantes, qui sont montées de plus en plus haut, parce qu'il y a de fait une augmentation des modes constructifs. Et aujourd'hui, avant, quand on sortait une 400 tonnes pour monter une grue à tour, c'était quasiment, on appelait le journal. Maintenant, nous, on a, comment dire, on descend rarement en dessous d'une 100 tonnes avec des portées parce que les chantiers sont urbains, on est sur la route, on a des portées. Donc, et c'est là qu'on a besoin de faire un travail de partenariat. Et nous, on insiste beaucoup dans le choix de nos partenaires levageurs, qu'ils aient une approche partenariale. Où est-ce qu'on va mettre la grue mobile? Comment les problématiques de sous-sol vont être traitées? Comment on va se répartir aussi les rôles et responsabilités de chacun entre le grutier, le chef de manœuvre au niveau des gens de mes équipes qui ont préparé tout le plan de montage et de démontage. Donc notre niveau d'exigence a monté, Uperio a à cœur de se différencier avec plus de professionnalisme, et évidemment cette demande de professionnalisme, on la passe à nos partenaires levageurs, parce qu'il y a vraiment une approche partenariale très très forte. Et même si c'est vrai qu'on essaie économiquement de faire des choses intelligentes, parce qu'on est sous la même pression économique de nos clients, la partie qualité, cahier des charges, etc., est plus importante que le simple prix. Historiquement, dans les 10 années où on a créé Uperio, on a travaillé avec un panel maintenant qui va se resserrer et qui, je crois, continuera à se resserrer parce qu'on ne peut pas prendre de risques. On a beaucoup aussi travaillé sur un aspect qui est l'assurance, hein, puisque dans nos métiers, on ne peut pas éliminer les risques. On fait quand même des métiers, certes, passionnants, mais on sait qu'on n'est pas dans des métiers exempts de risques. Les risques, on les maîtrise, mais on se doit d'être couvert en cas de problème. Les matériels sont chers. Ils sont souvent extrêmement abîmés quand il y a des incidents. Et donc, l'aspect de bien avoir une belle couverture assurance entre nous, pour éviter que nos entreprises soient emportées par les coûts, les conséquences d'un problème, eh bien, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est un gros travail a été fait. Je remercie l'UFL qui participe pour nous à finaliser les choses. Nous, on travaille aussi beaucoup avec le groupe d'Alexandre et on a signé des cahiers des charges exigeants par rapport à ce qu'on avait pu avoir il y a quelques années, mais dont aujourd'hui, on se félicite.
Vous partagez ces mêmes exigences, vous, au sein de votre entreprise?
Tout à fait. Philippe nous a fait part de ses exigences et de sa vision du marché et de la partie fournisseur. Effectivement, bon, on travaille bien évidemment avec le groupe Uperio, qui est leader en France dans la location de grues à tours. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une couverture assurantielle hors pair. Les risques sont trop importants et puis il y a des recours aujourd'hui que l'on n'avait pas il y a 10 ans. Et on est obligé d'avoir cette couverture d'assurance qui doit être maximale dans nos entreprises aujourd'hui, oui, bien sûr.
En termes de marché, la construction, un petit mot, Philippe?
La construction, en ce moment, elle ne va pas très bien. On espère qu'elle va aller mieux. La grue à tours est, on va dire, 90% de la construction est dedans. Il y a 70%, c'est le logement. Donc, le logement en France est en panne. Nous, on a la chance de travailler avec des grands comptes qui se démarquent un peu du logement, qui est peut-être la partie la plus facile dans la construction, qui sont plus dans les infrastructures, type hôpitaux, ponts, etc. Et on a beaucoup de projets industriels. D'ailleurs, parfois, on est un peu en concurrence avec les solutions Grue Mobile, hein, ou par exemple, pour faire des data centers, des choses comme ça. Nous, on pousse une solution d'une grue à tour qui peut améliorer un petit peu la portée des opérations de levage, qui est moins impactante sur l'environnement plutôt que de mettre une grosse grue mobile. Mais il est clair que c'est une partie sur laquelle nous, on pousse, mais ça restera en taille de marché, peut-être 20-30% de notre activité. Et donc, on a besoin dans les prochains mois et années d'une reprise de l'activité logement qui me permettra de monter plus de grues à tours et de faire appel à plus de grues mobiles.
On parle beaucoup de réindustrialisation en ce moment. Est-ce que vous, ça a un impact sur votre activité? Est-ce que vous le sentez, les grands projets de réindustrialisation, de création de gigafactories de...
Déjà, pour vous répondre sur le BTP, en ce qui concerne Mediaco, depuis 2008, depuis la crise du bâtiment de 2008, on s'est vraiment écarté du bâtiment. En tout cas, on a essayé d'en écarter le plus possible pour essayer de diluer notre portefeuille. Et aujourd'hui, on sait que le bâtiment chez nous, le BTP, donc il y a le bâtiment et les travaux publics, le bâtiment aujourd'hui ne représente plus que 25-30% chez nous, alors qu'à l'époque, il représentait 60-70%. Et alors, qu'est-ce qui prend le relais? C'est l'énergie renouvelable, l'éolien, les panneaux solaires, l'industrie, la chimie, la pétrochimie, et bien évidemment les grands projets, donc le TP, et notamment les chantiers du Grand Paris, les chantiers de Toulouse, où on a, sur Paris, il y a eu 21 lignes souterraines qui ont été complètement construites, hein, en partant de rien il y a quelques années. La 21e ligne a été achevée. On a eu la chance de pouvoir faire 19 lignes sur 21 sur Paris et de participer au métro de Toulouse sur les 4 lignes qui sont lancées depuis 2 ans maintenant, enfin qui ont commencé tout juste, mais le projet est lancé depuis 2 ans. Donc oui, il y a une réindustrialisation, oui, il y a des travaux publics. Aujourd'hui, la vraie préoccupation, c'est le bâtiment ne va pas bien et ne pourra pas aller mieux à la fin de l'année ni l'année prochaine compte tenu du contexte politique actuel. Qu'est-ce qui va se passer pour les grands projets? Comment les travaux publics prendront le relais du bâtiment l'année prochaine, en 2026 jusqu'en 2027, pour assurer aux entreprises de notre secteur d'activité, que ce soit la location de grue mobile ou tout autre secteur d'activité qui travaille dans le BTP, de pouvoir avoir un niveau d'activité à peu près similaire à celui de 2019. Puisque aujourd'hui, on sait que le niveau de 2019 était quand même très cohérent. 2020, 2021, 2022, 2023, c'était presque l'euphorie. Revenir à 2019 serait dans le bâtiment un bel objectif, mais comment y revenir aujourd'hui sans un plan de relance, c'est, je crois, le plus compliqué à appréhender. Nous, dans notre métier, on vit sur le résiduel dans la grue mobile. En ce qui concerne le groupe Mediaco, on est toujours à 12% de croissance depuis le début de l'année 2024. C'est-à-dire qu'on a une belle croissance, on travaille beaucoup actuellement, mais la fin d'année 2025, inévitablement, on aura une baisse d'activité puisque nous, nous sommes sur le résiduel du bâtiment. Donc, si vous voulez, quand les bâtiments de logement se créent, nous, on travaille encore sur le toit quand il est terminé pour faire l'étanchéité, les bardages, toutes ces choses-là. Mais il n'y aura pas de bâtiment neuf. Donc, on a un petit décalage d'un an, voire 18 mois, et je pense que l'année prochaine, on devrait ressentir cette baisse d'activité. Pour vous répondre, la réindustrialisation, je ne sais pas aujourd'hui comment quelqu'un pourrait y répondre dans ce contexte.
En tout cas, la diversification est un moyen de...
Pour nous, elle a été un objectif.
C'est indispensable, en tout cas, dans vos activités.
Soit par secteur, soit international. Enfin, moi, c'est mon cœur. On va chercher fortune ailleurs, mais voilà.
En quoi les JDL, à chacun, c'est un événement incontournable dans la profession. Philippe Coé, un petit mot.
Alors, les JDL, c'est le grand rendez-vous en France des acteurs dans nos métiers du levage, mais pas uniquement, l'élévation au sens large et d'autres matériels. Ça donne l'opportunité, évidemment, de découvrir ce que les fournisseurs peuvent nous proposer. Et c'est aussi un grand moment de rencontre. On est un métier dans lequel on a parlé beaucoup des hommes, de la formation, de l'attractivité des métiers, du professionnalisme. Ça passe d'abord par un bon partage au niveau des dirigeants, la quasi-totalité des dirigeants, des acteurs français qui est là, et de partager la vision de comment on veut faire évoluer nos métiers. Donc c'est devenu, grâce à Frédéric et son équipe, un moment incontournable dans la vie de notre secteur, un petit secteur, mais un petit salon avec beaucoup, beaucoup de richesses.
Eric, pour vous ?
Je pense qu'effectivement, entre les JDL finalement et l'UFL, on a un combat qui est commun. Quel est ce combat ? C'est d'être sur quelque chose de convivial, parce qu'on a besoin d'être unis pour être plus fort. On a besoin effectivement de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de partager. Et finalement, on a besoin de promouvoir notre métier. Et je pense que les JDL et l'UFL ont finalement la même prérogative. Bien sûr, les façons de faire sont différentes. Hein, côté événementiel d'un côté, et puis un côté plus formel. Mais je pense qu'effectivement, on a quand même quelque chose qui est important aujourd'hui. C'est le seul événement français qui réunit la profession. Je tiens à quand même le souligner. Les équipes de Frédéric, effectivement, font un travail formidable à ce niveau-là. On se doit d'y être. On se doit d'être représenté. Et puis, on se doit de travailler avec nos confrères. Voilà. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, l'union fait la force. C'est comme ça que je le vois.
Alexandre, les JDL, c'est incontournable pour Mediaco ?
Moi, je pense que c'est une chance et une vraie opportunité. La famille Tarakois se donne beaucoup de mal. C'est notre seul rendez-vous de l'année. C'est notre seul moment de partage et de convivialité. On ne manque aucune édition, bien sûr. On en prend beaucoup de plaisir à venir avec nos équipes. On vient assez nombreux. Et je trouve que, pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est le moment où, finalement, on se retrouve. On est content de se voir. Le dîner de gala est toujours un moment agréable. On peut voir tous nos concurrents, tous nos confrères, les fournisseurs, les clients. Et puis, je vous dirais merci à la famille Tarakois de le faire parce que ce sont les seuls à le faire. Et c'est notre seul point de rendez-vous, tout comme le journal Manumag. C'est le seul journal de notre profession et nous avons besoin de ce journal et de ces moments de rendez-vous pour que notre profession existe. On est quand même un marché très niche et pas grand monde nous connaît. Même chez TLF et ODLR, nous sommes très petits. Et donc, c'est toujours important d'avoir un point de ralliement.
De faire connaître vos métiers respectifs et vos entreprises. Je vous remercie tous les trois pour vos éclairages, vos interventions, vos points de vue.